mimétiquement vôtre, voir le monde avec René Girard.
Une émission proposée par Jean-Louis Salasque.
Christine Orsini est agrégée de philosophie et vice-présidente de l'association Recherche Mimétique qui œuvre à la diffusion de la pensée de René Girard. Christine Orsini a été la première à rédiger un livre consacré à la pensée de René Girard et qui s'intitule précisément « La pensée de René Girard » chez Retz en 1984. Elle est également l'auteur du « Que sais-je » consacré à René Girard, publié en 2018. Voici le dernier chapitre de ce « Que sais-je » dans lequel Christine Orsini explique ce que René Girard met derrière ce terme « apocalypse ». Le paradoxe de la modernité est que, tout en connaissant les mécanismes de la violence, elle s'est pourvue d'institutions capables, sinon de la contenir tout à fait, du moins de la différer. Mais elle s'est privée de l'économie religieuse de la violence. Depuis Hiroshima, les armes nucléaires n'ont cessé d'exercer leur rôle de pharmacon, à la fois poison et remède. C'est toujours la violence qui tient la violence en respect. René Girard constate que les États modernes, qui produisent à grands frais des armes capables, dans un but dissuasif, de détruire toute vie sur Terre, sont dans le même rapport à la violence que les sociétés archaïques. Ils jouissent d'une paix précaire à l'ombre de leur violence sacralisée. La différence est qu'ils savent ce qu'ils font. Ainsi, tout est révélé, et ce n'est pas le rationalisme des Lumières, ni l'idéalisme hegélien, qui nous aide à comprendre ce qui nous arrive, ce sont les évangiles, le choix de renoncer à la violence ou périr de mort violente, le choix entre le royaume ou les ténèbres n'a plus rien d'utopique à l'échelle de la planète entière. Les textes évangéliques associent même les désastres écologiques, les fracas de la mer et des flots, à la menace d'autodestruction violente de l'humanité. En rencontrant la pensée de Clausewitz, par son livre « De la guerre » datant de 1832, au moment où l'islamisme violent provoque le retour de l'histoire, plus encore que le retour du religieux, René Girard est frappé par la convergence de l'intuition centrale du stratège prussien avec la théorie mimétique. Clausewitz, contemporain des guerres napoléoniennes, ne voit pas dans la guerre, comme Hegel, une ruse de la raison, mais il y voit un acte de violence, et il n'y a pas de limite à la manifestation de cette violence. C'est un duel où chacun des adversaires fait la loi de l'autre, d'où il résulte une action réciproque qui doit aller aux extrêmes. La guerre, instituée pour contenir la violence dans des limites acceptables, est en train de disparaître. Quand le but du conflit armé est l'extermination de l'adversaire, quand s'efface de plus en plus la distinction entre civils et combattants, le moteur de l'histoire n'est plus la volonté des hommes ou la politique, mais la violence pour elle-même, et une violence toujours plus indifférenciée. Cette indifférenciation est apocalyptique. Clausewitz a souligné ce paradoxe. Le conquérant veut conquérir, il veut donc la paix, c'est le défenseur qui veut la guerre. Hitler mobilisera tout un peuple pour répondre aux humiliations du traité de Versailles. Ben Laden fera du 11 septembre une réponse aux États-Unis, etc. C'est une loi anthropologique. L'agresseur se pose en défenseur. Cette loi de la réciprocité provoque la montée aux extrêmes et le déchaînement de la violence. Au début de leur livre « Achevé Clausewitz », René Girard et Benoît Chantre placent une citation de Pascal, tirée des Provinciales. C'est une étrange et longue guerre que celle où la violence essaie d'opprimer la vérité. Tous les efforts de la violence ne peuvent affaiblir la vérité et ne peuvent que la relever davantage. Toutes les lumières de la vérité ne peuvent rien pour arrêter la violence et ne font que l'irriter encore plus. Pour René Girard comme pour Pascal, le combat sans merci entre la violence qui veut le mensonge et la paix et la vérité en défense qui veut la guerre est le duel qui traverse l'histoire et nul ne peut savoir comment il finira. En effet, la résolution sacrificielle a été invalidée par la révélation. Dès lors, la violence démasquée n'a plus aucune fécondité culturelle, elle est purement destructrice. Les génocides, les massacres de populations civiles sont autant, nous dit Girard, de ratages sacrificiels. Quand un terroriste se sacrifie, ce n'est pas pour sauver des vies, mais pour en détruire le plus possible. Selon René Girard, l'Apocalypse a commencé, mais il donne à ce mot son double sens de révélation et de catastrophe. René Girard est un penseur apocalyptique qui refuse tout fatalisme. Les textes apocalyptiques des évangiles nous mettent en face de notre propre violence. Ils font partie de la révélation selon laquelle ce n'est pas Dieu qui nous punit, c'est nous qui, en refusant l'amour divin, nous punissons nous-mêmes. Le dépérissement des institutions chargées de nous protéger de notre violence est un effet de cette révélation. L'épître de Paul qui parle du triomphe de la croix dit que celle-ci a dépouillé les principautés et les puissances et les a données en spectacle, à la face du monde, en les traînant dans son cortège triomphal. Épître aux Colossiens, chapitre 2, versets 14 et 15. René Girard note de son côté l'ironie de Paul, qui compare les effets irrésistibles de la croix à ceux de la toute-puissante armée romaine. L'image d'un Christ vainqueur, pourtant, correspond à une réalité. En dévoilant l'origine violente des puissances et des institutions, la croix a bouleversé l'ordre du monde. La réalité des puissances de ce monde n'a jamais manqué de visibilité, tandis que le secret de leur fondation a toujours été bien gardé. Le triomphe de la croix est de révéler les sanglantes origines de tout ordre humain. L'envers du décor devient une représentation, celle de l'innocence de la victime et de la violence de ses persécuteurs. Il est vrai que les lumières de la vérité n'arrêtent pas la violence et même ne font que l'irriter davantage, comme disait Pascal. L'histoire de la chrétienté est pleine de bruit et de fureur. Mais Girard en appelle au simple bon sens. Y a-t-il eu jamais une civilisation aussi soucieuse que la nôtre du sort réservé aux victimes ? Le souci des victimes est une grande première anthropologique. Dans les démocraties modernes, il est au principe des droits de l'homme et de tous les progrès accomplis en matière de soins, de solidarité, d'éducation ou encore de lutte contre les inégalités. Loin d'être aussi ethnocentriques que l'ont été et le sont encore toutes les autres, la société occidentale s'adresse à elle-même des reproches sévères, tous très mérités, mais aucune autre civilisation n'a révélé et réhabilité autant de catégories de boucs émissaires dont les souffrances avaient toujours été ignorées ou légitimées. Cependant, Satan ne peut plus refouler ces désordres, refaire de l'ordre sacrificiel alors qu'il se déchaîne. Les totalitarismes du XXe siècle ont été véritablement sataniques. C'est au nom de la défense des victimes que le communisme stalinien a fait des millions de victimes. Quand le nazisme d'Hitler a voulu éradiquer, par le génocide du peuple qu'il a inventé, le souci des victimes. On peut s'inquiéter aussi, en temps de paix, de la concurrence victimaire. Dans le langage symbolique des évangiles, on dirait que Satan essaie de prolonger son règne en prenant la place du Christ, comme si chacun voulait occuper mimétiquement la place de la victime pour diaboliser les autres et se diviniser soi-même. La vérité anthropologique, mise au jour par les textes bibliques et la passion, a un aspect existentiel. Elle concerne le destin de l'humanité, mais aussi de chacun de nous. L'épisode de la femme adultère montre comment une petite foule en colère, s'apprêtant à lapider une pécheresse, peut être retournée, et dans ce cas, détournée d'une violence cathartique. En disant que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre, Jésus contraint chaque élément du troupeau à se séparer du tout pour redevenir soi. La première pierre est sans modèle. L'initiative de tuer est difficile. Elle devient impossible à prendre quand les plus âgés de la foule se retirent. Ils seront imités, la femme est sauvée. On dirait une conversion collective. Mais ce n'est pas la foule qui se retire. C'est, à la suite de quelques-uns, chacun qui se retire de la foule. Le principe de cette conversion, de toute conversion, est la descente en soi-même. C'est alors que cet appel, lancé à Paul sur la route de Damas, peut se faire entendre « Pourquoi me persécutes-tu ?» Merci de votre écoute. À notre prochaine rencontre.